du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Numéro 719 du coq à l'âne avec nos deux coqualiens du jour, c'est Jean Cointe et Michel Roussel. Salut les cocos.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai fait exprès d'employer le mot coco pour t'accueillir, mon petit Jeannot. Et puis notre invité, c'est Christophe Pirel.
Bonjour.
Bonjour, mon petit Christophe.
Salut. Comment tu vas?
Ah, ça va pas mal. Ah,
ça va?
Ah, ça va bien.
Le temps tu sais que... m'a paru très long.
Ben oui.
Loin de la maison.
On se demandait où t'étais. Hein.
J'ai pensé à toi.
On a tous pensé à toi.
J'ai un peu trop navigué.
Ah ouais, je sais.
Et je me sens fatigué.
Ah, un petit peu fatigué quand même. Hein.
Fais-moi un bon café.
Bah, désolé, on n'a que de la bière.
J'ai une histoire.
Ah, c'est
à
pas
te
mal
raconter.
Aussi.
Voilà, on a une histoire à te raconter. Bon, salut Christophe. Comment ça va?
Ça va pas mal. Ouais.
Ça va bien?
Ouais.
En forme? Bon,
plutôt.
Très bien. Alors, on va parler de beaucoup de choses, évidemment, dans cette émission, comme d'habitude, avec le sujet, évidemment, l'Ukraine, Zelensky, la Russie, l'Union européenne, Poutine, l'OTAN. Alors, j'ai essayé de faire une petite mise à jour sur tout ça. J'ai essayé de trouver des spécialistes en géopolitique qui maîtrisent plutôt bien le sujet. Donc voici un petit florilège.
On est là face à une guerre de dissuasion entre la Russie et les États-Unis.
Si vous voulez que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie, je vous donne le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
Je vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Eh bien, il s'agissait là qu'une guerre de dissuasion, en réalité, de communication. Voilà, une guerre froide de dissuasion où chacun montre ses muscles. C'est un peu la spécialité, il faut bien le dire, des Américains et des Russes, sans que ni l'un ni l'autre n'ait vraiment souhaité aller au bout d'un conflit.
Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, donc je peux me tromper, je reconnais. C'est vrai que je suis sceptique.
Du coq à l'âne.
Voilà.
Et on est d'accord que c'est les mêmes qui étaient spécialistes en Covid-19, non? C'est-à-dire qu'on a glissé là. C'est-à-dire que t'as les mêmes qui avaient des avis sur tout pendant le Covid. Maintenant, ils ont des avis sur tout, sur la géopolitique et la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que... il y a une population quand même, hein, intéressante. Ah, hein.
C'est très intéressant. Du coup, dans la série Touche pas à mon despote, je vous ai fait un petit échantillonnage de soutien embarrassé hein, depuis l'opération spéciale du maître du Kremlin.
Homme de l'année, c'est Vladimir Poutine.
Poutine, évidemment. Poutine, avec moi, je vous l'annonce. Poutine.
Avec ses lois anti-homosexuelles,
mais c'est
très bien ce qu'il a fait. Poutine qui devient le rempart, le dernier rempart contre le politiquement correct, contre le communautarisme gay, le multiculturalisme, etc.
Je dirais
que c'est un démocrate autoritaire. Moi, je vous répète ce que j'ai dit.
Démocrate autoritaire, oui. Ça veut rien dire.
Ah, ça veut tout dire.
Ah, rien.
Ah, absolument tout.
Non.
Ah, si. Ça veut dire qu'il est démocrate, il est élu par le peuple.
Enfin,
il n'est pas. C'est pas le peuple. Le peuple n'a pas voté contre lui.
Ça,
autoritaire,
comme...
ça veut dire qu'il utilise des méthodes que nous n'utiliserons pas.
Il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. On est là à faire un cirque pour parce qu'il a occupé la Crimée. Excusez-moi, Poutine n'est pas un danger pour moi.
Je n'ai jamais soutenu Monsieur Poutine. Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière.
Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie?
Oui. Ah bon?
Il fait quoi là en Syrie?
Je pense qu'il va régler le problème.
Tu me déçois énormément.
J'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce que il a réussi à mettre au pas les oligarques. Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine. Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision.
Je crois qu'il faut vraiment que la France arrête de se faire, que ce soit au niveau médiatique, mais même au niveau institutionnel, le vecteur de la diabolisation systématique de la Russie et même de son président Poutine à travers un certain nombre de désinformations.
Et notamment d'une propagande anti-russe. Aujourd'hui qui sévit sur les antennes françaises, où la Russie est accusée à demi-mot de crimes contre l'humanité.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce modèle européen à contre-temps. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un dîner avec Poutine, ça fait partie des choses à faire dans une vie.
du coq à l'âne.
Un petit dîner en tête à tête avec Poutine, hein? Ça serait pas mal, hein? En tout cas, Marion, elle aimerait bien, hein? Donc voilà, un petit florilège de, bah, quand même trois, bon, à part Marion, mais trois candidats aujourd'hui à l'élection qui se retrouvent quand même bien embêtés, non?
Ah bah, ça serait drôle si c'était pas si terrible, en fait. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, ça peut être marrant de les prendre isolément comme ça. Enfin, il y a des gens qui meurent, il y a effectivement une crise qui est mondiale, et à l'heure actuelle, se dire que ces personnes-là prétendent à la fonction suprême présidentielle, ça évidemment que ça élimine d'office. Je pense que, d'ailleurs, ça se ressent dans les sondages, on voit bien que ce qui se passe.
Ça a un peu baissé.
Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est bien. Enfin, et d'ailleurs, ça prouve que c'est des votes populistes, en fait. C'est-à-dire que tu as là des gens qui disent toute la journée des bêtises. Quand ça devient effectivement très concret, bah les gens le réalisent. Et évidemment, la confiance, elle ne peut pas venir. Dans les temps de crise, de toute façon, tu ne vas pas choisir ce type de personnage. Où est-ce que ça mène? Ils changent d'avis tous les deux jours, en fonction du vent, en fonction de ce qui se passe. Et puis finalement, c'est les amis des despotes mondiaux. Enfin, je veux dire, même Jean-Luc Mélenchon, quand il dit qu'il faut créer des nouvelles alliances, en fait, ça veut dire quoi, créer des nouvelles alliances? En fait, on a l'alliance avec toutes les démocraties mondiales. C'est-à-dire avec au sein de l'UE ou au sein de l'OTAN, on a l'alliance aujourd'hui avec les démocraties. Donc aller nouer des nouvelles alliances, ça veut dire quoi? Nouer des alliances avec des dictateurs, qu'ils soient russes ou ailleurs, en fait, hein, d'Amérique latine ou d'autres. Ça veut dire quoi, en fait, quand Mélenchon dit qu'il faut nouer des nouvelles alliances? Nouvelles alliances, ça veut dire nouvelles alliances avec des dictateurs. Donc il faut le prendre tel que c'est, en fait. C'est-à-dire que le désalignement, soi-disant, avec les Américains ou avec l'Union européenne en tant que telle, ça veut dire s'aligner avec des pays qui ne supportent pas la démocratie. Et donc ça veut dire que ces candidats, en fait, que ça soit d'ailleurs Marine Le Pen, que ça soit Éric Zemmour, que ça soit Jean-Luc Mélenchon, en fait, prouvent que ce sont des extrêmes, et que ce sont des populistes, et que ce sont des gens qui, en fait, ont des tendances au despotisme et qui, en fait, ne supportent pas la démocratie. C'est un passage obligatoire dans notre pays, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par l'élection pour pouvoir te faire élire, mais ça engendrerait derrière des crises mondiales qui repartiraient de la France si jamais on devait choisir ce type de personnage. Et quand ça s'illustre là, comme on le voit, bah, les Français sont quand même pas totalement débiles. Ils voient bien qu'ils risquent de mettre, si jamais ils vont dans ce sens-là, des personnages qui, en fait, ne sont pas des démocrates et qui nous mettraient en danger profondément.
Michel ?
J'avoue très sincèrement que s'il y avait un des trois candidats qu'on vient de nommer, donc Mélenchon, Le Pen
et Zemmour
qui seraient au plus haut niveau, de toute manière, en France, il aurait beaucoup de mal, très sincèrement, d'imposer ce qu'il a dans l'idée, ce qu'ils ont développé. Et tant mieux, ça démontrerait aussi que la nation, à un moment donné, il l'aurait en face de lui. Parce que la nation, elle veut bien se laisser courtiser parce qu'elle n'est pas satisfaite d'une politique de longue date. Et voilà, parce que la nation change, bouge, et on n'arrive pas à rééquilibrer tout ça. On n'arrive pas à trouver des projets communs qui nous unissent à moyen terme. On n'arrive pas. On n'y arrive pas, c'est comme ça, je ne sais pas. Il faut peut-être espérer que Emmanuel Macron arrive à nous souder un petit peu et avec un projet commun qui nous permette d'aller et de se retrouver unis. Mais pour le coup, on sait qu'ils ne seront pas au rendez-vous, ils seront pas, et tant mieux. Mais pour le coup, quand bien même, dans la fiction, on pourrait considérer qu'ils y seraient, la nation, elle marcherait pas au pas, je ne pense pas.
Enfin, à la différence près, si je peux me permettre, que notre constitution n'est pas très protectrice de ce type de personnage. C'est-à-dire que, contrairement à la constitution américaine ou à des régimes parlementaires où le Parlement est très fort, aujourd'hui, la question les questions régaliennes et notamment les questions qui sont liées à des crises de guerre sont liées au président de la République. Et on a la possibilité, par la 5e République, en fait, de donner les tout-pouvoirs à un président de la République. Et c'est pour ça que, attention, notre régime démocratique français n'est pas très protecteur. Contrairement aux États-Unis, où pour le coup, le président américain ne peut rien faire à l'extérieur sans l'avis de son Parlement. On n'est pas protégé.
C'est que tu as un régime présidentiel aux États-Unis, alors qu'en France, c'est un régime mixte.
Oui.
Qui se veut, on va dire, finalement, un régime présidentiel qui n'a pas le
qui
nom.
Qui dit pas son nom.
Mais cela étant, c'est vrai qu'il y a une stricte séparation des pouvoirs aux États-Unis entre le système judiciaire, le système législatif et le système exécutif, alors qu'en France, c'est pas le cas. Puisque, figurez-vous que les magistrats du siège sont théoriquement indépendants, mais les magistrats du parquet ne le sont pas, puisqu'ils sont nommés par définition par la chancellerie. Donc, c'est vrai que c'est une espèce de côté hybride des choses.
Une côte mal taillée, comme on dit.
Une constitution qui est faite pour De Gaulle.
Oui, mais c'est ça, sauf que le président de la République peut se décréter
était les pleins pouvoirs en état de crise. Enfin, on oublie toujours que la 5e République n'est pas un système très protecteur d'un système dictatorial. C'est-à-dire que, alors, au moins autoritaire, pas forcément dictatorial, mais admettons qu'un Zemmour ou une Le Pen arrive au pouvoir demain, qu'est-ce qui se passerait en fait ? L'application même du régime constitutionnel en état de crise leur permettrait d'appliquer un régime autoritaire. Et donc, là où les Français sont quand même, j'ai l'impression à travers les sondages, quand même prudents, ils voient bien le danger. C'est-à-dire que l'élection, elle ne s'oriente pas vers ce genre de personnage dans des moments de crise. Mais ça veut dire aussi qu'on est des enfants gâtés. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de crise, on se dit, tiens, c'est possible, on peut mettre des coups de pied dans la fourmilière en laissant possiblement passer ce genre de personnage. Enfin, ça nous rappelle à la réalité, en fait, tout ce qui nous arrive en ce moment. La crise, qu'elle soit sanitaire, mondiale, et en l'occurrence aujourd'hui géopolitique, elle nous rappelle qu'on ne doit pas jouer avec ces concepts. On ne doit pas jouer avec la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose de sérieux. Il faut aller voter, mais il faut bien voter, en fait. On ne choisit pas et on ne met pas des coups de pied dans la fourmilière juste en choisissant le plus bouffon d'entre nous. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Mmh. Et les états de crise, alors, finalement, peut-être que ça va nous protéger, paradoxalement, d'un truc complètement dingue. C'est-à-dire que quand il y a quelques semaines, on voit le niveau de l'extrême droite dans notre pays, mais c'est très effrayant, en fait. Mais à un moment, ça veut dire que les gens y ont pensé. Ça veut dire qu'à un moment, les gens y ont pensé, mais forcément parce qu'on est des enfants gâtés.
Mais c'est
parce
qu'on a tout,
carence,
en fait.
Parce que c'est une carence qui est liée, à une certaine mauvaise gestion des affaires par le Parti Socialiste, si tu veux.
Je suis pas sûr que ce soit tout le Parti Socialiste.
La guerre en Ukraine. Attends, on parlera. On reviendra en local tout à l'heure.
Mais n'empêche, prendre votre place au lieu de faire des conneries. Oui, bah, excuse-moi. Peut-être que vous n'en seriez pas là.
Bah, bon, on reviendra là-dessus après.
Oui,
Michel.
La critique que tu viens de faire donc à la nation, comme des mortels, bah, moi je l'applique directement au monde politique. Parce que s'il y avait une meilleure gestion globalement, si elle était plus juste, plus honnête, ben, on n'aurait peut-être pas cette déviance. Après, l'intérêt d'avoir effectivement des gens qui sont dans les extrêmes, des mots qu'il faut changer les choses, comme tu le dis à juste titre, peut-être que la constitution de la 5e République, il faut peut-être la modifier, probablement, parce que la société bouge, elle évolue, il y a plein de choses qui arrivent, il faut
Michel,
forcément...
on a les élus qu'on mérite. Excuse-moi, il y a un moment. Non, mais si tu veux, un moment.
Quand c'est vrai dans... ce que tu dis.
Mais oui,
vrai.
Parce que quand on n'est pas dans une situation de crise, qu'est-ce qu'on choisit ? On choisit le truc qui nous répond à nos aspirations individuelles. En fait, on a un réflexe trop individualiste. Quand tout d'un coup, les crises commencent à arriver, on commence à réfléchir à l'état du monde. Et alors, par peur, hein, évidemment, donc en fait, ça renvoie quand même à des questions très égoïstes, mais en fait, on commence à réfléchir mondialement, on commence à réfléchir à l'état du monde, quand tout d'un coup on commence à voir le danger arriver. Qu'est-ce qui nous arrive là, en fait? C'est pas tout d'un coup que... c'est terrible ce que je vais dire, mais les Français sont pas en train de tous regarder les Ukrainiens en pleurant parce que c'est les Ukrainiens qui meurent. Mais ils se disent, ça peut nous arriver. Et du coup, comme ça peut nous arriver, tout d'un coup, on commence à réaliser. Tu sais, c'est comme sur le réchauffement climatique, en fait. Pareil. Ça n'existe pas tant que ça ne nous arrive pas, en fait. Le problème, c'est qu'il y a un moment où il faut arrêter d'être dans cette zone-là. Moi, je milite pour que la politique reprenne de la hauteur. Mais à un moment, les politiques qui sont élus ici sont bas de plafond et pas très visionnaires, c'est parce que les gens votent pour eux. Excuse-moi, mais il y a un moment où je suis désolé, que ça soit au niveau local ou au niveau national, si à un moment tu choisis celui qui répond le plus à tes aspirations très personnelles et individuelles, et que tu penses pas à la vision globale des choses, c'est la responsabilité de l'électeur, c'est pas la responsabilité du politique. Le politique, lui, il est une réponse aux aspirations d'un peuple. C'est le principe même de la démocratie, tu vois.
Tu veux dire rajouter quelque chose?
Ce que je dis à propos du Parti Socialiste est valable aussi pour la droite républicaine.
C'est bien. Comme ça, tu fais
l'équilibre.
Et chacun en prend pour son grade. Je voudrais seulement revenir sur...
Pour aller casser la croûte avec Poutine, c'est difficile parce qu'il paraît qu'il est très avare. Il est rase, Poutine.
Non, mais c'est pas possible. Hein. Alors, vraiment.
Ça doit être très très ennuyant parce que, enfin, il mange sur des longues, très très longues tables maintenant. T'as vu, t'es à 5 mètres de lui.
Jeannot.
Tu me déçois énormément.
Voilà, ça c'est fait. Oui, alors cela dit, maintenant, on sait qui frappe l'Ukraine. Voilà. Parce qu'on se posait la question, hein. On s'est tous dit, c'est Poutine. Mais non. Pas du tout. Je vous propose d'écouter le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Ah. Il s'appelle Alexander Mokogonov. Alors, le petit Alexander, je vais vous le faire écouter, il est là.
On voit des reporters du monde entier qui voient des bombardements partout, sur la route, sur des immeubles. Oui. On voit que des civils sont ciblés, monsieur. Vous le voyez aussi,
exactement.
Ça.
Exactement. Mais là, demandez d'abord qui bombarde ces civils. Qui bombarde les ponts, qui fait sauter les bâtiments.
Oui.
C'est les bataillons nazis ukrainiens qui le font tout simplement pour créer cette image, pour que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de l'armée
russe.
Donc
les Ukrainiens, si je m'entends bien, sont en train de saboter leur pays, de massacrer leur population pour accuser Vladimir Poutine.
C'est leur tactique.
Qui lui dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses objectifs, y compris par la guerre.
Oui, mais pour venir au bout de ses objectifs, ce n'est pas obligatoire de bombarder les civils, de bombarder les objets de l'infrastructure civile, de tuer les enfants et les femmes, les vieux, etc.
Voilà, donc il faut savoir que si vous regardez la télé en Russie aujourd'hui, le mot guerre est interdit comme invasion ou attaque. On parle d'opération spéciale et de maintien de la paix. Ce qui nous amène au fait qu'il y a eu la mise au ban de chaînes présentées par beaucoup comme étant de désinformation, comme Sputnik, RT. Alors on a dit, liberté de la presse, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
À partir du moment où les médias, moi je trouve qu'ils doivent rester libres, mais tant quand ils sont financés par un pays directement et que la ligne éditoriale est fixée par le Kremlin, j'ai quand même du mal à penser que sur notre territoire, on puisse laisser circuler ça. Tu sais, il y a des pays, aux États-Unis notamment, où par exemple quand Trump racontait des idioties à la télé, ils coupaient le signal. C'est-à-dire qu'en fait, ils le coupaient, ils arrêtaient le direct, ils reprenaient la main et les journalistes disaient, ben voilà, en fait, M. Trump était en train de raconter
n'importe quoi.
Et du coup, à partir du moment où il raconte n'importe quoi, on ne peut pas le laisser continuer à raconter n'importe quoi comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, tu sais aussi que il y a des pays comme par exemple en Belgique où l'extrême droite ne peut pas parler en direct à la télé. Ne parle pas et doit toujours être analysé. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes se sont mis comme un principe de ne pas les diffuser en direct pour pouvoir justement d'abord analyser ce qu'ils racontent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fake news dans ce qu'ils racontent, et derrière de pouvoir mettre des journalistes en plateau pour expliquer ce qui est une fake news qui est dit par les politiques. Moi, je trouve que c'est un système intéressant parce que, à la rigueur, qu'ils puissent s'exprimer, très bien, mais enfin, quand par exemple des Zemmour ou des Le Pen racontent ce genre d'ineptie en fait à la télé, et que derrière, et que c'est en direct, et que derrière il n'y a pas d'analyse, en fait, on jette en pâture les
choses. Et que le journaliste ne réagit pas.
Mais parce qu'en direct, comment tu sais, évidemment, tu es journaliste, tu vois bien, comment tu réagis en direct si on te balance des chiffres, des machins, tout ça. Alors maintenant, c'est vrai que les régies nationales se sont dotées de journalistes qui sont maintenant dans l'oreillette et qui essaient en direct d'aller vérifier les données, parce que et ça permet d'opposer de temps en temps de la vérité. Mais je trouve que le principe même de laisser raconter n'importe quoi et sous ligne éditoriale évidemment du Kremlin, c'est un problème. Par contre, j'aime bien ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez suivi que aujourd'hui RFI est toujours diffusé en Russie, mais ça va bientôt être coupé. Toutes les chaînes d'info, France 24, etc., qui diffusent à l'international, ont été coupées parce que ils sont sinon passibles maintenant de sanctions de l'État russe. Si effectivement ils parlent de guerre, notamment, ou s'ils disent du mal des militaires, c'est de bonne guerre. Et aujourd'hui, RFI est en train de proposer de revenir, si tu veux, aux ondes courtes et de diffuser effectivement sur le sol russe des journaux en russe. Qui seront du coup faits depuis Paris, mais qui seront diffusés et sur des postes radio que les personnes en Russie pourront continuer à écouter, mais presque,
mais à l'ancienne,
mais qui leur permettra de faire quoi, d'avoir une information.
Une information qui soit qui autre celle que Kremlin. Celle du Kremlin.
Je trouve que c'est plus intéressant.
Alors moi, je t'arrête, mais je t'attends.
Par exemple, il y a le feu à l'agence de voyage, inutile de s'y rendre, par exemple.
C'est ça.
Non, mais alors moi, je t'arrête. RT France, si tu veux, quand même, à un moment, ils n'ont pas juste diffusé des sujets sur comment c'est super en Russie, etc. Ils ont tenté d'influencer la politique nationale française, avec notamment des utilisations, des crises telles que les gilets jaunes et autres, pour essayer de soulever en fait, les classes populaires, notamment françaises, et par des désinformations. Et ça, pour le coup, c'est inacceptable. Si à travers ça, on n'oppose pas de la vérité, c'est ça qui à mon avis, est le juste milieu à trouver.
Alors je t'arrête parce que pour certains, les journalistes sont à la botte du gouvernement. En France.
En France.
Bah oui.
Oui, mais d'où ça? Enfin, à un moment, alors ça c'est formidable parce qu'à un moment ils sont à la botte du capitalisme, à un moment ils sont à la botte du pouvoir, à un moment ils sont à la botte de l'extrême droite si c'est CNews. En fait, à un moment on a une pluralité aujourd'hui de médias qui fait que globalement tu peux aller chercher de l'information opposable. Je trouve que tu vois les journaux évidemment sont, je trouve, une source très fiable, les journaux papier, les radios en fait. Aujourd'hui on a une chance d'avoir en France. La télé, c'est plus compliqué, je trouve. Parce qu'il y a une espèce de buzz permanent de recherche, de scoop, de machin. Ça va très vite. Il faut. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de radios et qui sont des fois des radios d'opinion, mais qui en fait qui s'opposent, et chacun peut aller chercher les choses. Enfin, on n'a quand même pas non plus, ni sur RTL, ni sur France Inter, ni sur Europe 1, etc., malgré les obédiences peut-être un peu directeurs, différentes, de fausses informations. On a des interprétations qui peuvent être différentes. Et c'est pas parce qu'on fait de l'interprétation et qu'on a un avis qu'on désinforme. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'on mélange deux choses en France. Les radios, par exemple, elles sont pas dans la désinformation. Elles ont des fois des opinions. Bon, très bien, chacun a le droit d'avoir des opinions. On est dans un pays libre, on est dans un pays démocratique. Il faut que ça continue. Et chacun va chercher un petit peu là où il se sent le plus à l'aise. Là, quand on bascule dans la fausse information assumée d'une éditoriale, c'est pas la même chose. Et RT et d'autres faisaient ça.